Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 12 juin en direct de Washington, au micro Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, 4 casques bleus tués et plusieurs blessés dans une attaque suicide à Aguelok dans le nord-est du Mali.
Cet attentat ne détournera pas l'aménagement de sa mission de rétablissement de la paix et de la sécurité au Mali, a conclu le chef de l'aménagement.
8 personnes tuées hier par des hommes armés au centre du Nigeria.
La République démocratique du Congo et le Rwanda s'accusent mutuellement d'être responsables de l'affrontement transfrontalier d'hier.
Le ministre ougandais des Affaires étrangères, élu président de l'Assemblée générale de l'ONU.
Pakistan, une attaque présumée de drones américains a fait au moins 6 morts.
Enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre le travail des enfants.
Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant le journal.
Dans le nord-est du Mali, 4 casques bleus ont été tués dans une attaque suicide à Aguelok. On compte également plusieurs blessés, dont 4 soldats maliens du GITIA, Sigi, désarmés depuis le 22 mai, qui étaient dans le même camp que les soldats de la MINUSMA. La MINUSMA qui se joint au gouvernement malien pour condamner l'attentat. Correspondance de Kassim Traoré.
C'est à Aguelok, ville située entre Kidal et Tessalit, dans le nord-est du Mali, près de la frontière avec l'Algérie, plus précisément à l'entrée du camp de la MINUSMA, qu'un véhicule suicide a explosé. Cette attaque fait 4 morts parmi les casques bleus. En outre, cet attentat a fait 10 blessés, parmi lesquels 6 de la MINUSMA et 4 des forces armées maliennes. Le chef de la MINUSMA, Albert Konders, condamne dans les termes les plus fermes cette attaque. Je suis choqué que des valeureux soldats de la paix soient pris à nouveau pour cible. Cet attentat ne détournera pas l'aménagement de sa mission de rétablissement de la paix et de la sécurité au Mali, a conclu le chef de l'aménagement. Le gouvernement malien, dans un communiqué, condamne cette attaque suicide et s'est dit déterminé à œuvrer avec ses partenaires pour poursuivre et traduire en justice les auteurs et complices de ces crimes ignobles. Le Mali renouvelle son engagement avec l'appui de la communauté internationale à poursuivre la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
8 personnes ont été tuées hier par des hommes armés au centre du Nigeria. 3 villages de l'état du Plateau étaient visés par cette attaque. Le point avec Issa Napon.
Ces hommes armés ont ouvert le feu tôt hier matin sur des civils et incendié des maisons dans les villages de Bachit, Rim et Jol dans le district de Riom. 3 assaillants ont été tués selon le porte-parole de la police. Une église a aussi été incendiée, précise le capitaine Ikedishi, qui a ajouté qu'il n'y a eu aucune arrestation. Une enquête est en cours pour déterminer l'appartenance ethnique des victimes et des agresseurs, ainsi que les motivations de l'attaque. L'état du Plateau au Nigeria a une longue histoire de violence opposant des éleveurs Fulani de religion musulmane à des agriculteurs Bérom de confession chrétienne. Selon l'ONG Human Rights Watch, depuis 1992, environ 10 000 personnes ont été tuées dans des affrontements interreligieux dans les états du Plateau et de Kaduna.
Et nous restons au Nigeria. Dans le nord du pays, les autorités contredisent les informations selon lesquelles Boko Haram aurait enlevé 20 femmes la semaine dernière. Dans un entretien téléphonique avec le service Hausa de la Voix de l'Amérique, le commissaire de police de l'État de Borno a déclaré que la police locale n'était pas au courant de ces derniers enlèvements. De même, le président du gouvernement de Chibok dit ne pas avoir été informé de ces nouveaux rapts. C'est l'agence Associated Press qui avait fait état de ces enlèvements à quelques kilomètres de Chibok, où plus de 200 jeunes filles ont été kidnappés en avril.
Le ton monte entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les autorités de Kinshasa et de Kigali s'accusent mutuellement d'être responsables de l'affrontement transfrontalier qui s'est produit hier. La RDC accuse les forces rwandaises d'avoir franchi sa frontière au nord Kivu avant d'enlever puis tuer un soldat congolais. Au contraire, le Rwanda affirme que ce sont les forces congolaises qui sont entrées sur son territoire avant d'ouvrir le feu sur ses troupes. Les Rwandais auraient alors riposté, tuant 4 soldats congolais. Les combats ont duré environ 4 heures. La mission des Nations Unies au Congo dit enquêter sur l'incident.
Et c'est dans ce contexte que les Nations Unies ont annoncé hier que tous les rebelles hutus rwandais qui acceptent de déposer les armes quitteront à terme l'est de la République démocratique du Congo. Bagassi Koura.
Selon le général Abdallah Wafi, numéro 2 de la MONUSCO, les combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, qui ne veulent pas rentrer dans leur pays, seront cantonnés provisoirement dans le nord-ouest de la RDC en attendant qu'on puisse leur trouver une terre d'accueil. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, a confirmé qu'il n'était pas question que les ex-rebelles demeurent sur le sol de la RDC où ils sont accusés de graves crimes de meurtre, viol, pillage et enrôlement d'enfants. Cependant, il a ajouté qu'ils resteront juste le temps de régler leur transfert dans un pays tiers pour ceux qui ne veulent pas rentrer au Rwanda. Depuis la fin mai, quelques 180 combattants FDLR ont déposé les armes au nord et au sud de Kivu. Les leaders des FDLR sont accusés par Kigali d'avoir participé au génocide de 1994 où quelques 800 000 personnes ont été massacrées.
L'opposition du Congo-Brazzaville en exil a organisé du 7 au 10 juin un rassemblement à Paris contre une nouvelle candidature du président Denis Sassou Nguesso. Les opposants du pouvoir de Brazzaville veulent empêcher toute révision de la constitution congolaise qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Bagassi Koura a joint à Paris Jean-Luc Malekat, le coordonnateur des Assises de Paris.
Nous nous sommes réunis parce que nous savons qu'il y a des soi-disant sages de certaines régions de notre pays ou d'autres personnes qui demandent à ce que le chef de l'État puisse réviser la constitution du 20 janvier 2002 qui stipule d'abord que le nombre de mandats requis est limité à 2. Alors qu'il souhaiterait que le chef de l'État puisse actuellement effectuer un troisième mandat. Alors nous nous disons que par rapport au texte et à d'autres raisons, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de réviser ou de changer la constitution et qu'il ne faudrait pas un troisième mandat au président Denis Sassou Nguesso. Et ce d'autant plus que nous savons que dans notre pays, cet aspect des guerres de changement de constitution a souvent généré des guerres civiles et fratricides. Et c'est pour prévenir un peu tous ces conflits que nous nous sommes réunis pour dire non à la révision de la constitution, non au changement de la constitution.
Sam Kutesa, le ministre ougandais des Affaires étrangères, sera le prochain président de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a été élu hier à l'unanimité. À cette occasion, il a réitéré ses positions contre l'homosexualité. On sait que Sam Kutesa a été le porte-parole international de la loi anti-homosexualité récemment adoptée en Ouganda.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le nord-ouest du Pakistan, une attaque présumée de drones américains a tué au moins 6 personnes dans une zone tribale. L'opération intervient 3 jours après l'assaut des talibans pakistanais sur l'aéroport international de Karachi, attaque qui a fait 36 morts. Si elle est confirmée, cette frappe de drones américains sera la première au Pakistan depuis 6 mois. L'année dernière, lors de la reprise des pourparlers avec le Pakistan, avec les talibans, le gouvernement pakistanais avait demandé aux Américains de suspendre ce type d'attaque.
Au Proche-Orient, dans le nord de la bande de Gaza, un raid aérien des forces israéliennes a tué une personne et fait au moins 2 blessés. C'est ce qu'annoncent les autorités palestiniennes. De son côté, l'armée israélienne explique qu'elle visait un policier du Hamas et un jeune activiste impliqué dans des tirs de roquettes sur l'État hébreu. L'attaque d'hier soir fait suite à un tir de roquettes transfrontalier provenant de l'enclave palestinienne. C'est la première attaque du genre depuis l'entrée en fonction du gouvernement palestinien d'Union nationale la semaine dernière. Gouvernement vivement critiqué par Israël en raison de la participation du Hamas.
Enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre le travail des enfants. L'Organisation internationale du travail se félicite des progrès réalisés dans la réduction du nombre d'enfants contraints de travailler. Il reste cependant encore beaucoup à faire pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Jean-Roger Billon.
L'OIT note dans son dernier rapport que de plus en plus d'efforts sont faits pour maintenir les enfants à l'école. Les gouvernements ont par ailleurs semé abondamment dans le domaine de la protection sociale et la mise en place de politiques d'assurance santé et d'assurance chômage pour les familles pauvres. Ce n'est pas encore tout à fait le cas en Afrique subsaharienne où un enfant sur 5 est contraint de travailler. L'Organisation internationale du travail essaie en ce moment la politique des prestations en espèces ou en nature en faveur des familles avec enfants dans plusieurs pays africains dont le Sénégal, le Burkina Faso, la Zambie, le Mali et le Kenya. Ce programme a eu des résultats probants en Amérique latine. Dans la même veine, l'Éthiopie bénéficie d'un vaste programme de travaux publics et le plan adopté en Afrique du Sud a des répercussions bénéfiques indirectes sur les enfants. En dépit de ces avancées, le Bureau international du travail est pessimiste pour la date butoir de 2016, l'objectif visant à retirer les enfants de la prostitution, de la pornographie et d'autres pires formes de travail des enfants ne sera malheureusement pas atteint.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec. Les trois groupes armés du Nord Mali ont conclu le 9 juin à Alger une déclaration conjointe. Le gouvernement malien, dans un communiqué, prend acte et remercie l'Algérie pour les efforts de facilitation du dialogue inclusif intermalien en vue d'un règlement durable de la crise au Nord Mali. Mais il y a aussi quelques dissensions à l'intérieur des groupes rebelles. Idriss Fall a joint Mohamed Ould Matali, d'une faction du mouvement arabe de l'Azawad. Il est contre la déclaration d'Alger.
Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration parce que les consultations qui sont en train de se faire en Algérie, il n'y a pas une légitimité ailleurs que celle-là qui est approuvée par les accords de Ouagadougou où il y a deux signataires et deux adhérents. C'est-à-dire les MNLA, les ACIA qui sont signataires et les MA dont je fais partie et qui n'a pas attaqué Kidal et qui n'a jamais violé les accords et les SNCPR. Ce sont les quatre mouvements qui sont les signataires de Ouagadougou et nous respectons encore les accords de Ouagadougou. C'est pourquoi on n'a jamais violé en aucun moment les accords. Donc dire qu'on a attaqué Kidal, ça donne une autre légitimité. Moi, je trouve que ça, c'est une violation des accords de Ouagadougou.
Mais les trois groupes armés disent avoir été attaqués.
Les trois groupes, c'est eux qui ont occasionné l'attaque parce qu'ils ont été toujours des provocateurs.
On a l'impression qu'il y a des dissensions à l'intérieur du mouvement arabe de l'Azawad.
Non, on a une dissidence qui est bel et bien connue et qui est entretenue par les MNLA. Et cette dissidence est logée au sein des camps des MNLA. Nous sommes un mouvement autonome qui est libre de ses actions. Ce n'est pas les MNLA qui nous dictent ce qu'on doit faire.
MNLA, au Conseil pour l'unité de l'Azawad, ancien Amsardine, on a l'impression que c'est les mêmes personnes mais qui changent de nom pour discuter avec Bamako.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des signataires qui sont connus. Les deux les signataires sont bel et bien connus, les secrétaires généraux des différents mouvements. Et les MA, son signataire, c'est Ahmed Oussoud Mohamed, il reste et demeure respectueux des accords de Ouagadougou.
Mais apparemment, au sein du MAAA, il a été récusé aussi.
Non, ça c'est une dissidence entretenue par les MNLA et connue de tout le monde. C'est comme la dissidence des MNLA qui est Ibrahim Mohamed Fall à APA.
Mais donc Bamako finira par discuter avec qui alors?
Bamako va discuter avec les signataires de Ouagadougou parce que tout le monde se retrouve dans les accords de Ouagadougou à condition où on dit carrément que les accords de Ouagadougou n'existent plus. Là, c'est autre chose. Mais du moment où on est tout le monde rattaché aux accords de Ouagadougou, les accords de Ouagadougou, on connaît les mouvements qui les ont signés.
Actuellement, il y a une donne qui a changé. Ce sont ces groupes armés qui contrôlent Kidal.
Mais Kidal n'est pas l'Azawad comme eux, ils veulent le réclamer, non plus le Nord. Azawad est une partie. Chaque mouvement a une zone. Les CFPR commandent la vallée du fleuve. Nous commandons encore une autre zone. Donc chaque mouvement a une zone déterminée.
Mohamed Ould Matali, d'une faction du mouvement arabe de l'Azawad.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, la Coupe du Monde au Brésil. Entre ferveur et appréhension, vivez le coup d'envoi en direct de Sao Paulo, sans oublier les questions brûlantes affectant le football planétaire. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Coup d'arrêt de l'assistance humanitaire en direction de la République centrafricaine. De nombreux chauffeurs transportant cette aide à partir du Cameroun voisin ont cessé de travailler à la suite du récent meurtre de trois de leurs collègues par des membres présumés de l'ex-Séléka. Les précisions de Michel Joseph.
Les conducteurs de camions exigent des garanties de sécurité de la part des autorités centrafricaines. Ils reprochent aux troupes africaines déployées en RCA de ne pas les protéger contre les miliciens et les rebelles. L'un des conducteurs, Danjuma Bello, dit qu'il a décidé d'adhérer strictement au mot d'ordre du syndicat des camionneurs.
On nous a surpris comme ça là. Et puis nous abandonnant les camions, fuyant, puis on tirait sur nous. Voilà le véhicule aussi. Comme vous voyez, les trous a subi jusqu'au niveau des pare-brise, comme vous voyez là. Ce sont des balles.
Les chauffeurs chauffeur de camion transporte les vivres et les produits de première nécessité du port camerounais de Douala à Bangui. Ils sont victimes de fréquentes attaques des ex-Séléka et de leurs rivaux anti-Balaka, a expliqué leur président El Hadj Oumarou.
Il s'agit encore une fois de mort d'homme. Le chauffeur a été froidement égorgé. Pour le moment, nous avons marqué un temps d'arrêt pour respecter le mort. Forcément, il faut suspendre provisoirement ce trafic.
Pays enclavé, la République centrafricaine dépend du port de Douala pour 95% de ses importations. Aujourd'hui, quelques rares chauffeurs non membres du syndicat continuent d'emprunter la dangereuse route vers Bangui, sur laquelle 20 de leurs collègues ont été tués depuis le début de la crise centrafricaine. La Voix de l'Amérique, au Cameroun, sur Océan FM à Douala, Nimbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, a défendu l'échange du soldat américain Beau Burdall contre 5 militants talibans comme la chose à faire dans des circonstances imparfaites. Monsieur Hagel déposait hier devant une commission de la Chambre des représentants tenant ses premières audiences publiques sur la libération controversée de Burdall. Un compte rendu de Henri Francisque.
Le chef du Pentagone estime que l'administration Obama aurait pu faire mieux en tenant le Congrès informé de l'opération visant à la libération du sergent Burdall. Mais, a souligné M. Hagel, l'Amérique a le devoir de ramener au pays tous les soldats qu'elle envoie à l'étranger. Il a ensuite expliqué le processus ardu qui a permis, grâce aux bons offices du Qatar, d'obtenir à la dernière minute une percée.
The options available to us. To recover Sergeant Bergdahl.
Nos options pour récupérer le sergent Bergdahl étaient très limitées et loin d'être parfaites. Mais c'est ainsi souvent en temps de guerre, particulièrement dans une guerre aussi compliquée que celle que nous avons connue en Afghanistan ces 13 dernières années. La guerre, c'est le désordre et elle est bourrée de choix imparfaits. Mais avant même l'intervention de M. Hagel, le président républicain de la Commission de la Défense, Buck McKeon, avait rejeté les explications de l'administration Obama. Les explications que nous avons reçues de la Maison-Blanche lors d'un briefing à la Chambre en début de semaine visaient à leurrer les gens, si elles n'étaient pas carrément des mensonges souvent. Cet échange crée un précédent dangereux en négociant avec des terroristes. Son vis-à-vis démocrate, Adam Smith, a rétorqué.
Any sensible person who looks at the situation in Afghanistan right now understands that there is no ultimate peaceful solution.
Toute personne raisonnable qui regarde la situation maintenant en Afghanistan comprend qu'en fin de compte, une solution politique impliquera à un certain moment quelques négociations avec certains des talibans, lesquels nous ne le savons pas. Mais rejeter ceci comme étant de simples négociations avec des terroristes déforme, à mon avis, totalement la réalité. Quoi qu'il en soit, le chef du Pentagone a répété à plusieurs reprises qu'il pourra mieux répondre aux questions des parlementaires sur la capture de Burdall et sa détention par les talibans une fois que le sergent aura terminé son traitement médical en Allemagne et plus tard aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique, au micro Morgane Diriec. Merci de votre fidélité à nos programmes. Tout de suite, place au sport, le journal de la Coupe du Monde avec Bagassi Koura.
Bienvenue à ce journal de la Coupe du Monde. Plus que quelques heures, on sera en plein dans le Mondial 2014 sur place au Brésil. On met les bouchées doubles pour que tout soit prêt à Sao Paulo, ville récemment affectée par une grande grève des transports. Les commerçants espèrent tirer profit de la Coupe du Monde, comme l'a constaté notre envoyé spécial Nicolas Pino.
Dans le poumon économique brésilien, les activités ont repris. La grève qui a paralysé Sao Paulo et inquiété la planète football est encore dans tous les esprits. Les commerçants du centre-ville espèrent pouvoir se rattraper avec la Coupe du Monde et ses touristes venus du monde entier. Maria Elisabeth tient une boutique près du métro.
J'ai vraiment souffert de cette grève. J'habite à Santana, au nord de la ville. Je dépends beaucoup du métro pour me déplacer. Tout le monde a été affecté, les ventes ont chuté, les clients ne venaient pas à cause de cette grève.
À Itaquera, où aura lieu le match d'ouverture Brésil-Croatie, on met les bouchées doubles. Officiellement, l'Arena Corinthians est prête, mais de nombreux ouvriers travaillent encore sur le site. Les bâches, les ascenseurs de chantier sont encore visibles. La pelouse aux abords du stade vient d'être posée et les jardiniers tentent de combler le retard. Les retards, c'est justement ce qui est fortement reproché depuis des mois au comité d'organisation brésilien. Raphaël Alcadipani, chercheur brésilien.
We have been having World Cups in different countries over the last, let's say, 50 years.
Depuis 50 ans, il y a eu des Coupes du Monde dans d'autres pays et personne n'a autant posé de problèmes à la FIFA que le Brésil. C'est un message fort envoyé au monde. Les Brésiliens n'acceptent pas le mode de gouvernance du football mondial. Il faut changer la FIFA pour que le football redevienne populaire à nouveau.
Les ratés de l'organisation n'ont pas empêché les supporters de se préparer dans la joie à cette ouverture du mondial. Ils sont nombreux ce jour-là à se prendre en photo pour marquer l'événement. Petits et grands ne rêvent que de ça.
Super contento. Hemos encontrado que este país es maravilloso, la gente super amable.
Je suis très contente. Ce pays est merveilleux. Les gens sont très aimables, attentionnés et adorables.
La fête est déjà dans tous les esprits au Brésil. Il ne manque plus que le coup de sifflet de l'arbitre pour commencer. Nicolas Pino, Sao Paulo, pour la Voix de l'Amérique.
Le sélectionneur des États-Unis, Jürgen Klinsmann, a estimé que son équipe n'était pas un outsider dans le groupe D, le groupe de la mort avec l'Allemagne, le Portugal et le Ghana. Et parmi les 5 pays africains au mondial, l'Algérie, le seul pays arabe qui sera au Brésil 2014, a remporté 4 victoires lors des 4 derniers matchs de préparation. Sans bruit, la moins cotée des équipes africaines au mondial créera peut-être la surprise en sortant d'un groupe homogène avec la Russie, la Belgique et la Corée du Sud. Mohamed Zerouki, journaliste sportif au journal Al-Watan à Alger, nous parle de la santé de l'équipe algérienne.
Si on prend en considération les deux derniers matchs contre la Roumanie et l'Arménie, on pourrait dire qu'ils sont en bonne forme, sauf qu'il y a un point d'interrogation en ce qui concerne la défense qui reste un peu faible. Et là, il faut trouver une solution, surtout du côté gauche. Le premier match face à la Belgique, ce n'est pas du gâteau. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe, pour ne pas dire une des meilleures équipes du monde. Mais en football, il y a toujours des surprises. En 82, en Espagne, personne ne s'attendait que l'Algérie allait battre l'Allemagne, qui en ce temps était la meilleure équipe du monde. Et l'Algérie l'a battue. Arelovic est un technicien qui ne se laisse pas faire. C'est-à-dire que quand il fait une composition d'une équipe, c'est lui qui l'a fait. Il s'impose et je crois que c'est un fin technicien. Il a ses petites astuces. On a une très bonne équipe. C'est l'unique équipe du monde arabe et du monde musulman. Elle est faite de pros et je crois que c'est une bonne équipe. Sauf pour la défense où il doit y avoir une petite retouche.
C'était Mohamed Zerouki, journaliste sportif au journal Al-Watan à Alger. Et voici maintenant le coup de sifflet de Jules Valentin Ngwe. Aujourd'hui, notre consultant football nous parle des Super Eagles du Nigeria.
We celebrate the best African football.
Bonjour. Dans le match à distance qui les oppose aux Camerounais, aux Ivoiriens et autres Ghanéens pour la place de meilleur performeur africain lors de cette Coupe du Monde brésilienne, les Super Eagles du Nigeria partent sur des acquis incontestables. Le football de ce pays continent revient sur le devant de la scène, aussi bien dans la catégorie des jeunes qu'au niveau de l'équipe fanéon, avec à la clé le titre de champion du monde et celui de champion d'Afrique. Mais c'est surtout l'éclosion de plusieurs talents interchangeables et le retour à un jeu consistant qui a toujours su trouver un équilibre parfait entre spectacle et efficacité, jeu collectif et coup d'éclat individuel qui rassure le plus. Au point que nombreux sont les passionnés qui peuvent citer 4 noms d'internationaux nigériens, alors que la prestation d'ensemble convainc les plus sceptiques. C'est par ce collectif, cette solidarité retrouvée, le sens traditionnel du rythme de la rupture et du contre-pied, que les Super Eagles du Nigeria ont la volonté de confirmer au plus haut niveau le retour de ce géant du football africain qui a ébloui le monde dans un passé récent à travers les dribbles d'un Mathematical Odegbami, la bista d'un Henri Wosu, les gris-gris d'Okocha ou la fougue de Yekini, le taureau de Kaduna. Certes, le Nigeria a aligné des résultats modestes lors de la préparation. Mais les aigles se retrouveront sûrement dans tous leurs états offensifs dès le premier match contre l'Iran à Salvador le 16 juin. Le rendez-vous est pris. À demain.
Voilà, c'est tout pour cette édition consacrée à la Coupe du Monde. Au micro, Bagassi Koura, merci de nous avoir suivis.
Et comme tous les jours, on termine en beauté. C'est la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. La musique africaine a été célébrée ce samedi lors de la 4e édition de MTV Africa Music Award à Durban. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, fortement représentés lors de la compétition, ont raflé les prestigieux trophées. La Nigériane Tiwa Savage a été parmi les grands gagnants avec sa chanson Eminado.
Eminado, Eminado. What do you want from the bank? I just come from the bank, and I got money to throw it, throw it. So everybody, oh yeah, oh wait, oh wait. Rockin' that body, rockin' that body, rockin' that body for me. Keep rockin' that body, rockin' that body for me.
Here I go, oh here I go. It's time to show me your love.
Tiwa Savage, qui a été récompensée meilleure artiste féminine.
Elle la mérite, Morgane. Tiwa fait partie des artistes les plus en vogue du Nigeria, grâce à son style à mi-chemin entre la pop et le rythme traditionnel nigérien. Elle s'est fait une place de choix au sommet de charts africains, en compagnie d'autres musiciens comme Davido ou P-Square. Elle est actuellement en contrat avec Sony Music et Marvin Records. C'est pas petit.
Tiwa Savage, Eminado. Merci Roger.
De rien Morgane, nos salutations vont à Bali Traoré, à Bamako.
Roger Muntou, hein, que vous retrouvez tous les soirs dans le RM Show à 20h temps universel. Terminer cette émission, les titres avec Anne Albertson.
Quatre casques bleus tués et plusieurs blessés dans une attaque suicide à Aguelok, dans le nord-est du Mali. Dans le centre du Nigeria, 8 personnes tuées hier par des hommes armés. La République démocratique du Congo et le Rwanda s'accusent mutuellement d'être responsables de l'affrontement transfrontalier d'hier. Le ministre ougandais des Affaires étrangères, élu président de l'Assemblée générale de l'ONU. Au Pakistan, une attaque présumée de drones américains a fait au moins 6 morts. Et enfin, sur une note plus légère, c'est aujourd'hui le coup d'envoi du mondial de football au Brésil.
Ainsi s'achève notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la rédaction. C'était Anne Albertson à la mise en onde, Morgane Guiriec au micro. Je vous souhaite une excellente journée.